France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Nous avons tous dans nos familles des seniors et des grands seniors dont nous savons très bien qu'ils sont très prudents au volant, bien sûr, qu'ils font de très courtes distances, évidemment. Mais auront-ils le bon réflexe s'il faut freiner brusquement? Nous avons tous une forme de culpabilité à les voir prendre le volant. On sait bien que c'est pas sérieux, évidemment. Mais est-ce qu'on leur arrache la clé des mains? Moi, j'ai un très très vieux père. Mais comment je ferais pour faire mes courses si j'ai plus de voiture? Ça, c'est son argument à chaque fois que je tique de le savoir au volant. En France, le permis, c'est à vie. Et nous ne sommes pas une exception, mais les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Hollandais, les Slovènes doivent renouveler leur permis régulièrement. Il va bien falloir que nous y passions. Le Parlement européen a définitivement adopté une réforme qui prévoit une visite médicale obligatoire tous les 15 ans et même tous les 5 ans à partir de 70 ans. Et donc, nous devrons bien enfin en discuter vraiment et même l'adopter. Ça veut dire qu'on parle des vieux, de mon père, bonjour papa, mais pas seulement. Il est question aussi de tester l'aptitude à la conduite au fil de la vie. Que savons-nous des conséquences de nos pertes cognitives avec le temps, de nos réflexes, de la bonne mobilité de nos membres, de la qualité de nos yeux? L'idée, ce serait donc de passer une visite médicale après tout. Avant d'aller vous inscrire dans une salle de sport, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, un certificat médical. Et pour conduire, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, rien. Après, il y a les modalités de cette mise en place. Est-ce que c'est le médecin de famille qui dit, ben désormais la voiture c'est fini? Est-ce que sa responsabilité est engagée si vous prenez le volant quand même? Les arguments de ceux qui pensent que cette réforme ne sert à rien nous disent, mais c'est pas les plus vieux les responsables des accidents, ce sont les jeunes qui sont en fait en pleine santé. Eh bien, nous poserons évidemment la question à nos invités. On entend aussi, et c'est pour mon père, que sans une politique de transport pour accompagner toutes ces mesures, nous allons isoler toute une partie de la population. L'argument, il a du sens, nous y viendrons bien sûr également. La fin du permis à vie, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Sylvaine, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne, je suis enchantée d'être dans votre émission.
Eh bien, moi aussi, je suis ravie que vous soyez là. On vous écoute, Sylvaine.
Donc voilà, moi, donc mon papa, à l'âge de 84 ans, a commencé à avoir beaucoup d'accidents, à tel point qu'il a été radié de son assurance. À l'époque, il était quand même apte à se chercher une autre assurance qui a coûté très très cher, mais donc je l'accompagnais là-dedans, mais avec pour moi beaucoup de culpabilité, parce que je me rendais compte qu'il pouvait à n'importe quel moment avoir quelqu'un sur le capot, que ce soit un enfant, une femme, un homme, peu importe. Et puis, 2 ans après, mon papa a eu un accident, mais pas automobile, hein, où il a été alité 4 mois, et du coup, j'ai, entre guillemets, profité de cette période pour en discuter avec lui et lui dire que c'était plus possible et que, de toute façon, vu les pertes cognitives qu'il avait eues, il ne pourrait plus conduire d'une manière sécurisante pour lui et aussi, surtout, pour les autres. Voilà, donc j'ai vendu sa voiture.
Mais lui, il a dit quoi, Sylvaine? Est-ce qu'il a dit « Ok, t'as raison, vends-la »
Non, il était... Non, parce que je le privais de liberté. Mmh. Donc voilà, ça a été un moment difficile à gérer avec lui, parce que j'ai bien qu'on habite sur Lyon, donc j'ai mis en place des taxis, mis en place différents modes de transport pour qu'il puisse quand même partir, enfin, et voilà, et faire des courses qu'il avait envie de faire, mais voilà, c'était quand même difficile, et c'est pour cette raison que je suis, moi, contente que ça puisse enfin exister.
Et ça veut dire, effectivement, merci beaucoup Sylvaine, que la responsabilité ne soit pas uniquement dans la main de ceux qui doivent dire à leurs très vieux parents, bah tiens, tu me rends les clés. Avant de vous présenter les invités, puisque vous êtes là, guillemette, et que votre histoire a probablement de l'écho à celle de Sylvaine, pardon, je voudrais vous accueillir. Bonsoir guillemette.
Bonsoir.
Racontez-nous.
Alors nous, parce que moi j'ai installé mon papa en dessous de mon appartement suite à il a attrapé un méchant virus quand il était seul à Paris. Je l'ai installé chez moi et rapidement, pendant sa convalescence de ce virus, je me suis aperçue qu'en fait, il n'était pas prêt à conduire, à reprendre la voiture, lui-même non plus d'ailleurs. Et puis, une fois qu'il s'est remis, donc aujourd'hui il a 89 ans, j'ai vu que quand même, c'était un petit peu dangereux et que moi-même, je ne me sentais pas d'être dans sa voiture. Mmh. Alors, il continue à faire des trajets parce que, en effet, faire ses courts trajets, c'est pour lui avoir une certaine indépendance vis-à-vis de moi. Mmh. Donc, je regarde de ça, tout cela de très près. Néanmoins, lui qui jusqu'à ses 84 ans faisait 3 fois le Tour de France en un an, ça c'est fini. Donc il aimerait bien repartir à Paris, tout seul, en voiture. Il trouve ça bien mieux que le train, mais c'est pas possible. En plus, il n'aime pas porter ses appareils auditifs. Donc ça voudrait dire qu'il n'entendrait pas les klaxons de,
père, je devrais lui présenter le mien, je vais vous dire. Merci beaucoup.
Mais il a toute sa tête. Ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, c'est pas, pour lui, c'est passé un cap. Qu'il perd en autonomie et donc il c'est un pas vers la mort. Ouais. Et ça, c'est très important pour lui, mais pour nous, c'est quand même plus raisonnable de lui dire, il faut freiner un petit peu.
Merci beaucoup Guillemette, merci pour ce témoignage. On va discuter tout ça ensemble au téléphone ce soir avec vous, notamment Pauline Desroulettes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes joueuse de paralympique de tennis fauteuil. Vous êtes très impliquée dans ces problématiques que vous suivez d'extrêmement près. Il y a Yves Cara qui est là également. Bonsoir Monsieur Cara.
Bonsoir.
Le porte-parole de Mobilité Club France, l'association pour les usagers de la route. Ce que je trouve fou dans ces témoignages, et il y en a plein au standard, Pauline Desroulettes, c'est qu'au fond, ce que sont en train de nous dire les gens, là on parle de vieillesse, on viendra aussi dans l'inaptitude, parce que c'est quand même deux choses qui sont très différentes. Hein. Mais tous ces cas-là nous disent, il faut que quelqu'un prenne à notre place, en fait, une décision qui est effroyablement difficile à prendre. Parce qu'en effet, avoir le permis de conduire, c'est rentrer dans la vie. Ne plus avoir de voiture, c'est comme une forme de deuil en fait. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça marche.
Bien sûr, c'est on peut le comprendre, c'est une petite mort et c'est tellement difficile et j'imagine, hein, moi je, le jour où je ne serai plus capable de conduire, ça me fera quelque chose évidemment. Mais là, on le voit dans les témoignages.
Vous qui avez rencontré, il faut que je mette des sous-textes pour nos auditeurs, vous qui avez quand même été renversé extrêmement violemment par un automobiliste qui était un très vieux monsieur.
Effectivement, alors moi, j'ai été victime d'un conducteur qui n'était plus capable de conduire à Paris, sur un trottoir fauché, j'ai perdu ma jambe. Ouais. Et au-delà de ça, je me suis posé cette question, je me suis dit, c'est insensé dans notre pays, on fait énormément pour la sécurité routière, qu'on donne le permis à vie, et j'ai tenu à rencontrer ce monsieur parce que je voulais comprendre et je voulais mener ce combat pour que ce drame n'arrive plus à d'autres personnes. Et ça a été extrêmement constructif, cette rencontre avec ce conducteur qui était totalement responsable, conscient, qui n'était plus capable de conduire, qui a été victime de lui-même et qui a une fin de vie extrêmement compliquée. Et c'est vrai que ce combat, il est important. Bien sûr, c'est, on le disait, une petite mort d'arrêter de conduire, de renoncer, mais là, j'entends les témoignages des familles, des proches qui ont aujourd'hui cette responsabilité et c'est un poids terrible. Et c'est pour ça que enfin, légiférer sur ces visites médicales, ça serait une avancée et un soulagement pour énormément de familles.
Yves Cara, de votre côté, vous qui êtes le porte-parole de Mobilité Club France. Là-dessus, on peut tous tomber d'accord, peut-être, non ? Pour ce qui est de quel type d'inaptitude, quels certificats médicaux et comment, on en discutera bien sûr, mais sur le très grand âge, là-dessus, est-ce que tout le monde ne peut pas être d'accord sur exactement la même chose, Yves Cara ?
Alors, déjà, je voudrais juste corriger, ou en tout cas rectifier 2-3 petites choses. On n'a pas le permis à vie, parce qu'il y a déjà plein de cas médicaux qui empêchent de conduire, quel que soit l'âge. Cette visite médicale n'est pas obligatoire, on peut la remplacer par une auto-évaluation ou d'autres choses, et elle ne cible pas uniquement que les seniors, puisque la première visite médicale sera à 18 ans.
Donc,
Non, mais c'est important.
Je suis d'accord avec vous, et comme je le disais, on viendra effectivement sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce projet de loi, mais la question que je posais, c'était là, sur ce point spécifique du très grand âge, est-ce que c'est pas celui sur lequel tout le monde peut tomber d'accord ?
Alors, si souvent vos témoignages sont magnifiques, et chaque cas est particulier, chaque cas est unique, et si on n'arrive pas à convaincre le père ou le grand-père de ne plus conduire, ce qui est quand même, effectivement, comme vous l'avez dit, parfois un vrai drame, malheureusement, si on n'arrive pas, ce qui n'est pas le cas à Lyon d'ailleurs, elle a mis tout un système, un écosystème autour de son père pour qu'il puisse quand même se déplacer, on peut, anonymement, si on ne veut pas que le père ou le grand-père le sache, contacter les services de la préfecture pour qu'eux-mêmes prennent cette décision, ou pas d'ailleurs, après une visite médicale. Donc il existe déjà ce système, il n'est peut-être pas assez connu, pas assez utilisé, mais il existe déjà.
Enfin, quand même, vous êtes en train de nous suggérer d'aller dénoncer nos parents ou nos grands-oncles.
Mais oui, mais vous rendez compte,
c'est quand même un peu
Vrai vous rendez compte,
c'est surtout que ça n'aboutit jamais, malheureusement.
Mais vous vous rendez compte toute la difficulté de la chose. Mais le système existe encore, il faudrait peut-être le perfectionner, il faudrait peut-être l'améliorer, il faudrait peut-être mieux le faire connaître. Mais c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile.
Aujourd'hui, Pauline Deroulède, si je suis une personne très âgée, que je vais chez mon médecin parce que je vais chez le médecin régulièrement, et qu'il me dit, dites donc, votre vue a vraiment baissé, ou votre ouïe a vraiment baissé, ou qu'il me fait les tests habituels et que cognitivement, effectivement, c'est plus compliqué, je suis très vieille. Est-ce que en même temps, il me dira, il a une habilitation pour me dire conduire c'est dangereux, je vais vous demander est-ce que vous ne conduisiez pas. Est-ce qu'il peut le faire le médecin de famille aujourd'hui ?
Aujourd'hui, le médecin de famille, il a un devoir de conseil, c'est ce que dit l'ordre des médecins, c'est-à-dire qu'il peut pour lui se couvrir lui, indiquer au patient que celui-ci n'est plus capable apte à conduire et qu'il devrait arrêter, mais il ne peut en aucun cas agir, dénoncer par exemple du fait du secret professionnel. Et ça, c'est un point très important. À part couvrir pour ne pas engager sa responsabilité à lui, il ne peut pas du tout contraindre une personne à arrêter de conduire.
Et à quel moment, pour quel type d'accident, ou que ce soit un accident de santé ou j'allais dire un accident tout court, est-ce que de toute façon il y a une vraie procédure qui fait repasser le permis de conduire comment ça se passe en
tout fait ? Tout à fait, ça existe moi-même.
Alors voilà. vous avez eu un accident très grave. Donc
j'ai perdu une jambe, j'ai une amputation. Donc dans ce cas de traumatisme physique important, aussi les AVC, on doit repasser une visite et même son permis. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Par exemple, il peut avoir des aménagements. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Mais effectivement, c'est prévu. Maintenant, il y a un décret aussi en 2022. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps qui est passé pour les maladies d'Alzheimer sévères. Donc, dans certains cas, effectivement, il y a des visites qui existent, mais c'est pour des cas bien particuliers. Et malheureusement, ça n'empêche pas des drames qui pourraient être évités parce qu'il y a des gens qui n'ont plus leurs réflexes, etc.
Je vais me retourner vers vous, Yves Carat, dans une seconde. Pauline Deroulède, l'argument qui consiste à dire, je le disais tout à l'heure en introduction, mais attendez, c'est pas les vieux qui provoquent des accidents, c'est les jeunes. C'est réel, ça, en termes de chiffres, par exemple. Pour le coup, les accidents, c'est plutôt les jeunes que les vieux, on est d'accord avec ça ?
Bien sûr, si on rentre dans cette comparaison que moi je trouve pas constructive.
Vous
effectivement.
Allez dire pourquoi elle est pas constructive. Mais...
les jeunes ont une tendance plus accidentogène que les personnes âgées. Mais pourquoi ? Parce que les jeunes, ils ont une tendance à être beaucoup plus irresponsables. Et là, donc, on parle de deux choses différentes. Il ne faut pas confondre l'irresponsabilité de certains conducteurs,
et l'inaptitude,
conduire sous l'emprise de stupéfiants, sous l'emprise de l'alcool, qui sont déjà des infractions dans le code de la route, et l'inaptitude. C'est-à-dire, on est totalement responsable, conducteur exemplaire, on respecte le code de la route, mais on n'a plus tous ses sens pour conduire, ce qui était le cas du conducteur qui m'a fauché. Mmh. Voilà, il a inversé les pédales parce qu'il n'était plus apte à conduire.
Yves Carat, sur qui est responsable de quoi ? Est-ce que c'est là-dessus aussi que vous appuyez ? Est-ce que c'est par cette statistique-là que vous allez vous aussi ? Qui est responsable des accidents ?
Alors, attention, on n'est pas pour ou contre, hein, on est très humble et il faut faire très attention avec les mesures qu'on peut prendre pour la sécurité routière. On dit que toute l'énergie, tout l'argent qui serait pris pour mettre en place cette visite médicale, on pourrait le mettre ailleurs et être beaucoup plus efficace pour motiver tous les médecins, justement, à aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus sensibilisés au fait de conduire ou pas. Pourquoi pas les infirmières qui vont visiter des personnes âgées qui conduisent encore peut-être. Ce serait un rendez-vous qui serait pas tous les 5 ans, 10 ans ou 15 ans avec la sécurité routière, mais permanent, parce que vous avez 70 ans, ok, on va dire tous les 5 ans, on fait quoi pendant 5 ans ? Je peux avoir plein de maladies qui apparaissent. Ah ben moi, le médecin, il m'a dit que je pouvais conduire, donc je conduis. Et d'autant plus qu'il y a des pays scandinaves qui ont, bien avant que l'Europe n'oblige pas d'ailleurs, hein, c'est une visite médicale, je le répète, mais le demande de le faire, l'ont mise en place et ils l'ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait aucune incidence, et malheureusement, hein, on peut le dire comme ça, sur le nombre d'accidents. Donc ils l'ont de même supprimé. Donc voilà, il faut prendre aussi exemple avec les autres pays, et ils ne sont pas laxistes, croyez-moi bien, j'y ai passé 15 jours au mois d'août, je peux vous dire qu'ils ne sont pas laxistes, et tant mieux. Donc voilà, c'est pour tout ça qu'on pense qu'il y a plus à faire et qu'un seul rendez-vous tous les 5, 10 ou 15 ans, c'est pas assez.
Ben oui, mais je comprends pas bien. Du coup, s'il y a plus de rendez-vous, ça veut dire qu'on pourra voir les inaptitudes notamment, et donc enlever le permis de conduire à plus de gens. Donc vous êtes d'accord pour qu'on enlève le permis à plus de gens ?
Non, c'est pas plus de rendez-vous, c'est une conscience permanente chaque jour quand on prend la voiture, quel que soit l'âge, de se demander si on est apte ou pas à conduire.
Vous voulez dire la conscience de chacun, en fait.
La responsabilité individuelle qui existe déjà.
Alors bien sûr, ça vous fait rire, mais c'est pas vrai. Parce que les témoignages qu'on a eus d'auditrices, ben, elles sont bien conscientes qu'une personne ne pouvait plus conduire et elles l'ont amené gentiment à ne plus le faire. Donc je crois d'abord, comme je le disais, chaque cas est particulier. Ouais. Et puis dans les cas extrêmes, on peut contacter quand même, je le disais, la préfecture, ça existe. Et puis, il faut avoir de l'humanité, il faut mettre en place d'autres systèmes que la voiture. Et encore une fois, vous avez 70 ans, vous faites une visite et pendant 5 ans, on fait quoi? Nous, on pense que chaque fois qu'on va chez le médecin, chaque fois qu'on a un rendez-vous avec un corps médical quel qu'il soit, il devrait être sensibilisé à cette possibilité, oui ou pas, de pouvoir conduire. C'est tout le temps, en permanence, et ce n'est pas un rendez-vous tous les quelques années. C'est ça. Nous, on voudrait presque aller, si vous voulez, plus loin, pas forcément d'interdire,
C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Mais j'entends ce que vous me dites, Monsieur Carra, mais j'entends que vous dites d'un côté que effectivement, il faut pas parce que c'est pas suffisamment efficace, etc. Mais au fond, là, vous êtes en train de nous dire que on pourrait faire des contrôles plus souvent et qu'une fois tous les 5 ans, ça suffit pas.
C'est peut-être de la prévention dont vous parlez, c'est-à-dire que
j'ai pas parlé de contrôle, attention si vous permettez, j'ai parlé de sensibilisation permanente à la qualité de, enfin à la possibilité de savoir si on peut conduire ou pas. Et c'est pas un contrôle, c'est pas une sanction. Okay. Et puis vous savez, il y a, si je peux me permettre, il y a aussi donc les compétences médicales, mais il y a aussi les compétences techniques. Est-ce que je connais encore les panneaux? Est-ce que je sais bien prendre les ronds-points? Est-ce que je sais bien changer de fil avec le clignotant au bon moment, tout ça? Et ça existe déjà. Nous, on le fait. Ce sont des contrôles techniques, pratiques, des rendez-vous avec des dizaines ou centaines de personnes. On appelle ça les ateliers de la mobilité, en présentiel ou distanciel, pour remettre à niveau. Et croyez-moi, c'est déjà une auto-évaluation et un échange de procédés, ça marche très très bien.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses, Pauline Desmoulins.
Non, mais c'est basé sur le volontariat. Et c'est bien, il faut que ça continue d'exister. Mais pour moi, c'est encore un autre sujet. Vous avez beau connaître le panneau stop, si votre réflexe dans un freinage d'urgence est d'appuyer sur l'accélérateur au lieu du frein, on parle d'inaptitude. C'est tout. C'est un autre sujet.
Voici Françoise qui nous attend au standard depuis un bout de temps. Françoise, pardonnez-moi, on vous écoute.
Bonsoir, voilà, je suis Françoise et je suis infirmière libérale, donc dans ma voiture toute la journée. Et voilà, l'actualité nous rattrape parce que on nous rallonge l'âge de la retraite. Et moi, je trouve qu'il y a un peu quelque chose un peu contradictoire entre on repousse l'âge de la retraite et la conduite, quoi. Moi, c'est mon outil de travail. Qu'est-ce que je fais? Si on m'enlève mon outil de travail, qu'est-ce que je deviens?
Sauf que vous n'êtes pas inapte, Françoise.
Vous êtes apte.
Ah c'est pas inapte encore, hein. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut.
Et dans le cas où vous êtes inapte, vous n'auriez pas envie de mettre votre vie en danger et celle des autres sur la route, parce que je peux vous garantir qu'on n'a pas envie d'être à cette place.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Que je suis tout à fait OK pour un contrôle. Par contre, dans quelles conditions? Quels sont les critères? Quels praticiens vont effectuer ces contrôles? Il y a déjà pas de médecin pour soigner, parce que je suis bien dans le domaine et je peux vous dire que c'est très compliqué à l'heure actuelle de soigner. Moi, je me pose beaucoup de questions, voilà.
Et c'est des bonnes questions, Françoise. Merci beaucoup. Avant de rejoindre Karima Deli qui nous attend, Pauline Desroulettes, est-ce qu'on l'a acté ça? Qui s'en occupe? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que ce soit le médecin de famille? C'est compliqué, le médecin de famille. Parce que c'est celui qui vous connaît depuis très très longtemps, et donc c'est lui qui va vous enlever les clés. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre?
C'est une vraie question, et vous avez raison de la poser. Je ne peux pas y répondre ce soir, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais voilà, moi j'ai travaillé notamment avec Karima Deli qui va intervenir sur un projet de loi en France. On est allé voir l'Ordre des médecins, parce que c'est leur rôle d'établir qui va poser un diagnostic, va travailler un réel contenu, où on va pouvoir tester les capacités cognitives, physiques, sensorielles, avec des outils simples, hein, pas forcément des machines qui coûtent excessivement cher pour les médecins. L'Ordre des médecins avait l'air de dire qu'ils étaient plutôt favorables à ce que ça soit les médecins agréés d'aptitude à la conduite, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup en France.
Ouais.
Moi, je dirais qu'il faut absolument mettre tout le corps médical, et y compris les médecins traitants, parce qu'à partir du moment où la responsabilité du médecin est engagée, c'est sérieux. C'est-à-dire que si on délivre une visite médicale et qu'on délivre un certificat d'aptitude, on engage un acte qui peut avoir des conséquences. Donc moi, je dirais qu'il faut se servir de tout le corps médical qu'on a dans notre pays.
Et l'engagement, effectivement, c'est important. Est-ce Bien que sûr. Oui ou non, on engage le médecin? Est-ce que ça lui fait prendre une sacrée responsabilité? C'est vraiment une question pour la politique que vous êtes, Karima Deli. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Ex-eurodéputée Karima Deli pour Europe Écologie Les Verts, vous étiez présidente de la commission transport, rapporteur aussi du texte sur le permis de conduire, et très impliquée là aussi sur ce sujet. Elle est légitime, cette question de notre auditrice Françoise, sur deux choses, sur qui doit le faire et dans quelles conditions, et puis aussi sur les craintes de l'isolement que ça peut représenter pour un certain nombre de gens. Vous avez été, vous, à la commission transport. Si, en enlevant le permis parce qu'on essaye de leur sauver la vie, on isole intégralement des gens, on n'a pas réussi l'objectif qui était censé être le nôtre.
Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi on fait ça? La vraie question, elle est là. C'est que l'Europe ne prend pas des engagements juste pour prendre des engagements. Ça c'est interdit. Elle se fixe un cap très, très ambitieux. Nous devons réduire le nombre de morts de moitié d'ici 2030 pour arriver vraiment dans le zéro mort mais zéro blessé grave sur les routes d'ici 2050. Ça veut dire qu'on a une boussole. Si on fait ça, c'est parce que le chiffre aujourd'hui est terrible, puisque chaque année, il y a 20 000 morts qui meurent sur nos routes. Mais on a oublié de dire le deuxième chiffre, c'est les 160 000 blessés très graves. Et donc, ces accidents, un accident ne fait jamais qu'une victime. C'est sur des familles détruites, des vies brisées, et pour le conducteur, une culpabilité sans fin. Et Pauline Desroulettes, que je salue, qui est à votre, dans votre studio, pourrait elle-même
en témoigner.
À votre question, on n'est pas là pour embêter les gens, pour dire on est contre la voiture. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est véritablement de sauver des vies. Et là, la question de votre auditrice tout à l'heure, on a bien conscience qu'aujourd'hui, de nombreux Français sont dépendants de la voiture. Ça, c'est une réalité. Mais nous avons une fracture territoriale qui est un mal qui ronge la France, hein, elle s'accroît sans cesse. Et donc nous, dans cette volonté-là, et cette proposition de loi qui amène la France à véritablement assumer notamment une avancée que d'autres pays, notamment avec une visite médicale en prévention, elle dit quoi cette proposition de loi? C'est de ne pas isoler justement davantage les gens, et pour ça, la mise en place, par exemple, d'une plateforme multimodale pour les gens qui n'auront pas les moyens justement de conduire. Ça veut dire qu'on est dans la prévention avec cette visite médicale, c'est une mesure préventive. Voilà, nous passons tous les jours tous des visites médicales pour faire du sport, du travail, parce qu'on doit s'assurer de notre bonne santé et dans le cadre de conduire, parce que ce n'est pas une activité comme une autre, notre aptitude. Et ensuite, l'avancée majeure du projet de loi que nous portons, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Au bord du chemin, c'est aussi à travailler sur les alternatives.
Karima Deli, on va avoir dans un petit instant au standard Gaël qui nous attend et qui est médecin généraliste. Je voudrais quand même vous poser la question avant de la responsabilité du médecin généraliste. Est-ce que c'est sur lui ou sur elle qu'on fait peser la responsabilité de laisser ou non les clés d'une voiture à un patient?
La problématique, elle est aujourd'hui sur la responsabilité des familles. Vous voyez, aujourd'hui, ce sont les familles qui décident d'aller cacher les clés. Parfois, il y a des ruptures familiales juste par rapport à ça. Vous voyez?
Ouais, mais là, je me mets à la place de Pauline. Imaginez, vous auriez pu, après votre accident, vous retourner, je le dis sans plaisanter, contre le médecin du gars qui vous a renversé en disant « Non mais attendez, toi tu le vois en visite médicale et tu n'as rien dit ». Donc la crainte des médecins généralistes, ça peut être celle-là. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Karima Deli? Est-ce qu'on leur dit « Vous engagerez votre responsabilité ou pas ?»
La responsabilité aujourd'hui, c'est qu'on sait que les médecins, tous les médecins aujourd'hui ont une capacité de fixer la liste des pathologies nécessaires pour un contrôle
médical. Ils ont déjà des responsabilités en prescrivant des médicaments.
Donc il faut arrêter de dire, il faut arrêter de dire que les médecins n'ont pas de responsabilité. Ce sont des gens sérieux avec des métiers de santé professionnels qui connaissent au bout du doigt les risques plus larges qui sont amenés justement à dire parfois à leurs patients, ils voudraient peut-être mieux ne pas prendre, par exemple, ne pas prendre le volant, etc. Mais il y a des moments où leur voix n'est pas écoutée, tout simplement, vous voyez. Et donc l'intervalle, c'est aussi ce que vous dites. Ce que disait tout à l'heure l'infirmière, qui est très important, c'est qu'elle dit qu'il manque de médecins. Ouais. Quel type de médecins ? Ce sont des médecins agréés, vous voyez ? C'est pas pareil que le médecin généraliste.
On va l'écouter.
Mais le médecin généraliste accompagne véritablement les usagers. Donc c'est aussi quelque chose d'important.
Je vous remercie, Karima Deli. Je voudrais qu'on l'écoute, Gaël, qui est médecin généraliste, justement. Votre point de vue, Gaël, bonsoir.
Bonsoir.
Évidemment, nous intéresse au plus haut point. On vous écoute.
En fait, du coup, ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est quand même un sujet dont on se saisit, hein, les médecins généralistes, l'aptitude à la conduite pour les personnes âgées. On va y penser essentiellement quand tout va bien, en consultation, quand il n'y a rien d'autre à régler, donc la visite de renouvellement. Et on va s'interroger sur plein de choses. Et alors, vous conduisez encore, ah bon, et jusqu'à où, et tout ça, voilà. Mmh. Et quand on sent que ça commence à être un petit peu tendu, et moi, je suis médecin de famille, donc mon avantage, c'est que je soigne aussi les familles, donc généralement, je vais avoir le fils ou la fille du patient que je soigne aussi, et je vais lui demander, alors votre papa, il conduit jusqu'à où ? Ah bon, jusqu'à Grenoble, c'est tendu, etc. Ouais. Voilà. Et puis je vais aussi voir si la voiture, quand je vais en visite, si la voiture elle est toute tonchée, et là j'ai des sérieuses alertes, donc là du coup forcément je vais alerter, et je vais dire à mon patient, écoutez, non là je crois que c'est plus raisonnable de conduire. Mmh. Après, ça, la plupart du temps, les gens ils sont pas complètement idiots, ils renoncent d'eux-mêmes, ça peut être parfois il faut des passages en force. Mon grand-père, on lui a piqué ses clés. Ça a été très mal vécu, mais on lui a piqué ses clés. Voilà, donc il faut trouver le bon moment. Oui. Nous, je pense que les médecins généralistes, on peut alerter, prévenir. Et vous parliez de la responsabilité tout à l'heure. Moi, quand j'estime que mon patient ne doit plus conduire, je vais le noter dans mon dossier. Alors, c'est sûr, ça va pas sauver la vie de la personne en face si mon patient a un accident. Mais au moins, j'aurais fait mon devoir, j'aurais prévenu. Et je veux juste dire qu'il me semble que c'est pas à nous de devoir prendre la décision d'enlever le permis à nos patients, parce que on a une relation de confiance avec eux. C'est un peu comme, vous savez, des fois je fais des certificats d'hospitalisation à la demande d'un tiers ou des choses comme ça, enfin des trucs hyper violents. Et là, dire vous conduisez plus, c'est du même niveau de violence, et je pense que ça romprait la confiance. Donc il faut que nous on alerte. La plupart du temps ça se passe bien, et quand ça se passe pas bien, et il faut qu'on dise, il faut aller voir le médecin de préfecture.
Merci beaucoup vraiment pour ce témoignage, Gaëlle. C'est vrai que c'est important, et Yves Cara, on entend la notion de c'est parfois violent d'enlever les clés d'une voiture, c'est tout aussi violent de se faire renverser, mais on comprend tous la violence de cette interdiction désormais. Moi, je me demandais où était votre terrain d'entente, et je suis sûre qu'il y en a, en fait, Yves Cara, entre vous, entre le Mobilité Club France, mais d'autres, et des gens, des associations, des Pauline Desroulaides qui veulent faire en sorte que les choses se passent bien pour tout le monde, aussi bien ceux qui sont sur le trottoir que ceux qui sont au volant. Votre common ground, si je puis dire, votre terrain commun, il est forcément quelque part, il est où ?
Il est où dans la sécurité routière ? Vous savez, nous, on a été créé en 1900, on était un automobile club, on a changé de nom. C'est dans notre ADN d'organiser la circulation des voitures pour qu'il y ait le moins possible d'accidents. On a été les premiers en Europe, dans le monde, peut-être, à le faire. Donc, on connaît le sujet par cœur. Et nous, ce qu'on veut, c'est zéro mort, zéro blessé sur les routes, évidemment. Mais on pense qu'effectivement, d'abord, c'est un sujet très complexe. Vous avez entendu le témoignage de Gaël. Ouais. Il est magnifique. Il émane de quelqu'un qui sait exactement ce dont elle parle. Et encore une fois, on n'est pas dans un monde idéal, mais dans le monde idéal, ce serait d'anticiper suffisamment pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que, quand on pose les clés, ce ne soit pas un traumatisme. Il est là, l'idéal. Allons-y, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les familles le fassent, et elles le font, dans la plupart des cas. C'est ce que Gaël a dit. Avec Gaël, on est dans un scénario idéal, hein, c'est-à-dire le médecin de famille qui connaît tout le monde et qui peut prévenir. C'est plus trop ça dans les villes maintenant, malheureusement. Mais voilà, le scénario idéal, c'est on anticipe suffisamment pour que poser les clés ne soit pas un traumatisme.
Pauline Desroulettes, dans ce qu'on a déjà vu et entendu depuis que les eurodéputés ont voté, c'est qu'une fois que ça arrivera devant les parlements de chacun, on pourra aussi avoir une option qui serait celle de l'auto-évaluation, en fait, où chacun remplit ses cases
soi-même. Questionnaire.
Voilà, une sorte de questionnaire. Est-ce que je vais bien ? Oui. Est-ce que je vois bien ? Oui. Est-ce que mon réflexe sont là ? Oui. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, en fait, quand on introduit ce genre de choses à l'intérieur de la législation ?
Ça, c'est un manque de courage politique, tout simplement. C'est une vaste blague, c'est se dédouaner, c'est reporter le problème. Voilà, c'est interroger la responsabilité individuelle individuelle et celle des familles d'une manière différente. Pour moi, évidemment, l'auto-évaluation, c'est pas la solution. Et j'espère, et on va tout faire pour que ça ne soit pas cette solution, et travailler un vrai contenu avec des médecins, lesquels, on le disait tout à l'heure, ça sera aussi à l'ordre des médecins de se positionner et de nous aider à le faire, que chacun remplisse son rôle. Et puis aussi, Karim Adeli en parlait, de prévoir une plateforme qui recenserait toutes les solutions alternatives de mobilité, parce que moi, j'ai toujours dit, ces visites médicales, elles doivent aller de pair avec des solutions alternatives de mobilité. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent plus conduire demain? Vous savez, j'ai toute ma famille en Dordogne, j'ai beau être parisienne, je sais que sans leur voiture, ils ne sont rien. Et donc, je suis tout à fait consciente de cette problématique. Et je pense qu'on n'a pas encore répondu à ce problème. Selon le territoire où on habite, il faut absolument y penser. Les transports adaptés, les transports à la demande.
Pas seulement, vous savez, mon père est en région parisienne et sans sa voiture, les courses, c'est le bout du monde.
Bien sûr.
Et pourtant, en région parisienne.
Et ça ne doit plus être le cas. On doit réinventer une nouvelle mobilité. Ne serait-ce que pour une raison environnementale, écologique. Ça fait des siècles qu'on construit notre mobilité sur la voiture. Il est temps que ça s'arrête et puis que la liberté ne s'arrête pas. Demain, quand on arrête de conduire.
Comment ça s'est passé chez les voisins? Donc Yves Cara nous dit, mais ils ont bien eu conscience parfois que ça servait à rien, en fait. Donc ils l'ont pas fait. Est-ce qu'on a des statistiques qui disent ça? Parce que ce qui m'a beaucoup intrigué en préparant cette émission, c'est que on parle d'Italie, on parle d'Espagne, on parle des pays de bagnole aussi quand même. Hein.
Enfin,
Exactement, c'est un vrai pays de bagnole, assez fort.
Ouais.
Donc je me demandais en fait comment les choses s'étaient déroulées, comment elles étaient perçues, si ça avait été complexe. Et jugé aujourd'hui comme utile, en fait.
Fabienne, je pourrais pas vous donner de chiffres, parce que je suis pas très chiffre. Mais en revanche, c'est vrai que j'entendais M. Cara le dire, dans certains pays, on a vu que c'était inefficace. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une formalité, malheureusement, trop administrative. On parle du contenu, c'est-à-dire que si on fait une visite médicale, il faut qu'elle soit efficace, efficiente, et qu'on teste réellement tous les sens qui nous permettent de conduire. J'ai des amis espagnols, et je sais là-bas que malheureusement, c'est un bout de papier qu'on va donner en 10 minutes, et que c'est trop léger. Et l'idée en France, c'est de certainement pas faire ça, et que ça soit vraiment une visite médicale qui serve à sauver des vies.
Voici Claire. Bonsoir Claire.
Oui, bonsoir.
Vous en avez des visites médicales apparemment.
Effectivement, oui. Moi, c'est plutôt un témoignage qu'une question. Je suis diabétique, insulinodépendante depuis 37 ans maintenant. Donc, j'ai été diabétique assez jeune et j'ai donc un permis provisoire. Je dois passer tous les 5 ans une visite médicale auprès d'un médecin agréé qui atteste de ma capacité à conduire sans mettre la vie des autres en danger et sans mettre ma vie en danger.
Et vous trouvez ça normal ou intrusif, du coup, vous ?
Alors, je trouve que c'est de la prévention qui devrait peut-être s'appliquer à tout le monde. C'est pas forcément une question d'âge. On peut être à n'importe quel âge, on peut perdre des capacités. Des réflexes, la vue, je sais qu'au Canada, par exemple, les gens sont obligés de passer un test tous les 5 ans, à la fois technique, où ils révisent leur code de la route, et puis où on s'assure qu'ils sont en bonne santé. Et je pense que c'est de la prévention bien senti.
C'est important ce que vous dites, c'est que effectivement il faut contrôler tout le monde. Moi j'insiste aussi sur cette notion là parce qu'il y a des inaptitudes qui peuvent être temporaires au cours de la vie et permanentes, ou simplement un rappel à porter ses lunettes. Il y a un Français sur 4, je crois que c'est le bon chiffre, qui ne porte pas ses verres correcteurs, et voilà, ces visites,
c'est écrit d'ailleurs sur le permis. Et normalement, quand on se fait arrêter par un flic, on doit pouvoir montrer qu'on a ses lunettes si on ne les porte pas.
Les forces de l'ordre ne sont pas toujours au fait de ce genre de détails, mais en tout cas, il faut contrôler tout le monde, vraiment.
Et en même temps, j'écoute nos auditeurs et j'écoute Pauline Desroulets de Yves Cara, et au fond, la clé, et c'est fou parce que c'est le cas dans plein de sujets, en fait, hein, au-delà de la conduite et du reste, ça s'appelle l'acceptabilité. Et tant qu'on arrivera, si on arrive à en parler et à générer cette acceptabilité, au fond, tout le monde trouvera ça normal à tous les bouts, si je puis dire, du spectre de cette question, et y compris chez vous, Monsieur Cara.
Oui, mais encore une fois, on n'est ni pour ni contre. Mmh. C'est juste que c'est une question tellement complexe, avec, qui doit être traitée avec beaucoup d'humanité, où on doit trouver des solutions alternatives. Effectivement, le tout bagnole, quand on avance en âge, ça ne doit pas être la seule solution. Mmh. Mais quand on est en Dordogne ou ailleurs, c'est aussi le cas, ou même en Île-de-France. Donc, vous voyez, c'est très complexe. C'est pour ça qu'une visite médicale tous les 5, 10 ou 15 ans, il peut y avoir des phénomènes d'évitement. Ça n'a pas forcément fonctionné dans les autres pays. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 ans ? On fait rien, on a donné le bon sein, vous pouvez y aller, conduisez, monsieur, quoi qu'il se passe. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser.
Eh bien, est-ce qu'on essaye de la poser à un enseignant de la conduite qui nous a appelé, c'est Fred. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, alors c'était juste un petit témoignage. En fait, j'écoute votre émission depuis presque le début. Et en fait, je fais partie des professionnels de la route qui ont déjà cette visite médicale en fait, obligatoire tous les 5 ans. Et en fait, je trouve que c'est pas fait sérieusement, en fait. La dernière, j'ai pas du tout été ausculté, j'ai pas eu de test de vision, mais j'ai été considéré apte.
Ah oui.
Et ah oui.
On parlait du contenu, justement.
Mais ouais, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars vous a vu, il a dit ça va, et il a signé, c'est ça que ça veut dire? Enfin, je caricature, mais à peine, Fred, visiblement.
Ah non, c'est pas une caricature. Ça s'est vraiment passé comme ça.
Ok. Et est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous du coup qui lui avez dit en fait, j'ai un problème, je vois pas bien, ou est-ce que vous êtes parti comme ça?
Si j'avais un problème, je lui aurais dit. Ouais. Mais si j'avais été de mauvaise foi et pas vouloir lui dire, il l'aurait pas vu.
Vous êtes tombé sur un sacré engin.
Alors, je crois pas parce que j'ai déjà eu 4 des visites médicales et le mieux que j'ai eu c'est des tests de vision. J'ai jamais rien eu d'autre.
Non, mais okay. En tout cas, vous relevez ce problème dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, il faut absolument que cette visite médicale ait un vrai contenu réel où on puisse faire les choses sérieusement, qu'il y ait des conséquences derrière ou pas. Et ça, c'est très important. Sinon, ça ne sert à rien.
Bah en fait, on est un petit peu dans le cadre de l'auto-évaluation. C'est-à-dire que si on a un problème, on le dit. Si on n'a pas envie de le dire, on le dit pas.
Voilà. Sauf que le médecin est censé savoir. Voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, et j'imagine que c'est ça que vous voulez, Pauline Desroulades, il va falloir une checklist, une vraie, c'est-à-dire la vision, l'ouïe, je ne sais pas, des tests de réflexe, j'imagine, des choses comme
les
ça.
Les réflexes, effectivement, okay. On parle de capacité cognitive, physique, sensorielle, c'est vraiment tous les sens. Après, moi, je ne suis pas médecin, mais pour avoir parlé avec beaucoup de médecins, y compris des neurologues, il y a des tests simples, ne serait-ce qu'avec les mains, qu'on peut faire pour tester un petit peu les réflexes du patient.
Chez les médecins agréés, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel qu'un médecin généraliste n'a pas à vous parler.
Je peux vous en parler, j'ai fait la visite
et
spontanément.
C'est pour ça que je vous en parle. Donc du coup, vous, effectivement, qui avez été amputé, ça marche comment en fait? On vous place dans quoi pour être sûr que tout va bien?
Alors, écoutez, c'est très très complexe et j'ai parlé avec le médecin en question. C'est des outils qui coûtent très cher, voilà. Et pas accessibles. Et là, je me suis dit, il faut absolument trouver une autre solution pour tester, je veux dire, un plus grand nombre de conducteurs. On teste les réflexes avec les pédales, avec l'œil, voir si ça tout fonctionne bien. Mais j'ai trouvé ça très très compliqué et j'ai questionné le médecin qui m'a confirmé qu'il y avait personne comme moi qui venait sur la base du volontariat se faire tester, que c'était simplement des gens qui avaient perdu leur permis dans le cadre de conduite sous stupéfiants et qui n'avaient pas ce genre de profil de personnes qui venaient se faire tester.
Et au fond, c'est là-dessus que je trouve que vous avez un terrain d'entente avec Yves Carra, en effet, parce qu'il y a des gens qui auront besoin d'un test grandeur nature avec des équipements qui sont des équipements chers et des médecins spécialisés, et d'autres qui auront simplement besoin qu'on vérifie peut-être plus basiquement en fait, que tout va bien sur les yeux, tout va bien sur les oreilles, et puis...
Il ne faut pas que ça fasse peur aux gens.
Exactement.
Ces visites, c'est une deuxième ceinture de sécurité, je pense, et que, rassurez-vous, si vous êtes apte, vous pourrez continuer à conduire. Si vous êtes inapte, on vous évitera d'avoir une fin de vie très compliquée. Et encore une fois, j'ai été victime hier, je peux être responsable d'un accident demain, et le combat continue.
Allez, ceinture et bretelles. Merci beaucoup.
Merci
à tous les deux. Merci vraiment pour votre participation. Merci à tous pour vos nombreux appels. Puisqu'on est en retard, je remercie et très chaleureusement Pierre de Certaine, Amaury Boucher, Nathalie Pouedevin, Thomas Langlin pour la jolie semaine dans le 18-20. À la technique ce soir, il y avait Ronan Mahé et Mélissa Étroit.